sais-je quoi? Peut-être un message? Faites vos éclairs vous-même. Nous, on aimerait aller à la plage. Quelle toupie!
Les bourgeois, non, j'en ai rien inventé!
Les bourgeois!
Attends. Je voudrais te demander un truc. C'est pas très normal.
On s'en fout d'être normal.
Does it make you remember anything?
Mais j'ai bien compris, hein, bien compris. Tu me prends et tu me jettes comme un vieux mouchoir.
Pourquoi vous n'avez pas donné plus d'explications?
Celui qui parle vraiment sent s'imprimer sur sa langue le goût aigu du piment et la douceur de la mangue.
C'est bon, tu l'as assez, range ton cahier.
À rebrousse-poil, quelques pas d'exploration documentaire.
Le 26 février à Lyon, un meeting préparatoire de la marche du 19 mars pour la justice et la dignité a été empêché de se tenir en raison d'une attaque de la part de groupuscules d'extrême droite. Cette agression faisait suite à une campagne d'intimidation de ces mêmes groupes, le GUD et les Jeunesses Identitaires, ainsi que du Parti Nationaliste Français, qui avait envoyé un message subliminal à ses sbires en partageant l'événement sur sa page Facebook. À la veille du meeting, la vitrine du local de la Maison des Passages, lieu de l'événement, avait été brisée, ce qui avait conduit les responsables du local à annuler la réunion. Une semaine plus tôt, le même meeting prévu à Vaux-en-Velin avait été annulé, en raison de multiples pressions dont les collectifs organisateurs supposent que certaines émanaient de la mairie PS, hostile à l'événement. Le collectif du 19 mars de Lyon a considéré que la parole antiraciste ne devait en aucune façon être réduite au silence et a décidé de maintenir l'événement sur les berges du Rhône, à proximité du quartier historique de l'immigration lyonnaise. Mais la préfecture a interdit le rassemblement, craignant des troubles à l'ordre public. C'est finalement la maison de la Mésopotamie qui a accueilli la réunion dans l'urgence.
Je me trouve devant vous aujourd'hui parce que mon frère Lamine Dieng a été tué en 2007, le 17 juin 2007.
Ramata Dieng, du collectif Vivolé.
Lamine a été monoté, un bras passé par-dessus l'épaule. Il avait également les jambes attachées par une ceinture de contention en cuir. Son arrestation a duré 30 minutes au cours desquelles Lamine était face contre terre. Les policiers ensuite l'ont traîné jusqu'au fourgon de police. Et dans le fourgon de police, il a été posé encore face contre terre. Et là, 5 policiers se sont agenouillés sur lui. Il y avait un sur son épaule droite, un sur son épaule gauche, un sur son bassin, un sur ses jambes repliées jusqu'au fessier et un autre sur sa tête. Les médecins légistes ont relevé pas moins de 30 hématomes sur le corps de Lamine, notamment sur le dos, dont une dizaine sur la tête. Il donne la cause de la mort et l'asphyxie mécanique par suffocation due à l'appui facial contre le sol avec pression du sommet de la tête. Il y avait également un œdème cérébral et un engagement cérébelleux. Ça veut dire quoi? Que sous la pression exercée par le policier agenouillé sur la tête de Lamine, le cerveau a manqué d'oxygène. En manquant d'oxygène, il a gonflé dans la boîte crânienne. Il a tellement gonflé qu'il ne pouvait plus tenir dans la boîte crânienne et il a commencé à s'écouler par la seule issue possible qui est donc le trou occipital qui se trouve au niveau de la nuque. Lamine n'avait aucune chance de s'en sortir en somme. Le juge a prononcé un non-lieu au vu de tous ces éléments scientifiques et incontestables en juin 2014. La famille qui s'est constituée partie civile depuis juin 2007, a fait appel de cette décision. La chambre de l'instruction de Paris a confirmé le non-lieu en juin 2015. On a fait appel encore. Et depuis juin 2015, on est à la Cour de cassation. On attend la décision de la Cour de cassation qui devrait tomber dans les 6 premiers mois de cette année.
Engagé, pour la Mindienne, pour la Mindienne, hein. Pour la vérité.
La raison pour laquelle je suis là, et je fais partie du collectif unitaire pour l'appel du 19 mars, en tant que famille de victimes et également en tant que collectif Vivolé. Ce collectif, nous l'avons constitué en 2010. Dedans, il n'y a que des familles victimes de crimes policiers. Et l'objectif de ce collectif, c'est d'assister les familles nouvellement touchées, d'une part, et d'autre part, aider les familles anciennement touchées à lancer une procédure en justice, et pas que la procédure en justice. Non seulement on donne des conseils juridiques, mais on donne également, des conseils militants. Voilà, comment sensibiliser la population, comment organiser des mobilisations, etc.
entier. Elle résonnait en la mémoire. Le mal écoute les crimes, exige la vérité sur la mort de la mine.
Et du coup, bah voilà, on appelle à la mobilisation du 19 mars parce que c'est juste, c'est une ultime tentative de dialogue en fait avec les autorités, parce que au fil des décennies passées, des 5 décennies passées, il y a eu des rapports d'Amnesty, il y a eu des rapports de l'ACAT notamment en 2015, il y a eu des recommandations faites par les militants et par les concernés eux-mêmes, les victimes elles-mêmes auprès du gouvernement. Tout ça n'a donné aucun résultat. Enfin si, il y a eu une réponse de la part des autorités. La réponse qui est arrivée systématiquement, lorsqu'on propose des solutions pour améliorer les relations entre police et population, c'est le durcissement des lois répressives. C'est également donner plus de pouvoir aux policiers comme s'ils n'en avaient pas déjà suffisamment. Le dernier en date, c'est la loi qui a été votée concernant la légitime défense et l'utilisation de l'arme à feu au même titre que les gendarmes. Voilà. Donc les policiers aujourd'hui ont le même pouvoir que les soldats, tout simplement, parce que la gendarmerie, c'est l'armée. Hein. Nous, on en arrive à la conclusion qu'aujourd'hui, il faut faire des recommandations à nous-mêmes. À nous-mêmes, cela signifie quoi ? Cela signifie qu'il faut qu'on s'organise, qu'on réfléchisse du moins à comment faire pour se protéger de cette police raciste et xénophobe qui, au quotidien, dans les quartiers populaires, que ce soit en banlieue ou même à l'intérieur de Paris, c'est le harcèlement au quotidien, les humiliations au quotidien, et c'est juste, ce n'est plus possible que ça dure. Et donc, vu que l'État n'entend pas les appels au secours de la population, eh ben, on en arrive à appeler la population elle-même, dans sa globalité, pour enrayer ce mécanisme morbide. Parce que, encore une fois, je ne sais pas si vous avez lu le rapport de l'ACAT publié l'année dernière, c'est une victime chaque mois. Et aucune de ces victimes n'est armée. Donc elle ne constitue nullement de danger pour qui que ce soit. Donc il n'y a aucune raison que les gens meurent dans les fourgons de police ou dans les commissariats. L'appel du 19 mars, c'est vraiment une ultime tentative de dialogue avec l'État. Pour enfin qu'ils mettent un terme aux violences policières. Et la manière de mettre un terme aux violences policières, c'est de sanctionner, d'appliquer la loi. Et la loi prévoit, le code pénal prévoit que lorsqu'un fonctionnaire de police tue hors cadre de légitime défense, c'est 20 ans de réclusion criminelle. Eh bien nous, on n'en est même pas là, parce que non seulement, souvent, c'est des cas de refus d'instruction, ou quand il y a instruction, ça finit par les non-lieux. Et pour nous, ce n'est ni plus ni moins que de donner un permis de tuer aux fonctionnaires de police. Dans un pays où la peine de mort est abolie depuis 1981. La mise à mort n'est pas condamnée par les magistrats, elle n'est pas condamnée par les politiques, elle n'est pas condamnée par les médias. Donc le 19, on appelle tout le monde, toute la population, à venir manifester pour dénoncer ces crimes et ces violences policières quotidiennes, et peut-être qu'on arrivera à sauver des vies.
C'est une marche pour la dignité.
Allez, on va marcher, on va tout déchirer pour notre dignité.
Le 19 mars,
Omar Slaouti, du collectif qui a tué Aliziri.
La France en direction de Nation, 14h. Vous vous rappelez, en 2005, il y avait cette idée que lorsque Ziad et Bouna sont morts, et on comprend d'ailleurs pourquoi Ziad et Bouna ont couru, il suffit de regarder ce qui s'est passé pour Théo, eh bien il y avait cette idée dans les quartiers populaires que parce que ça brûlait ici, il fallait que ça brûle là, et parce que ça brûle là, il fallait que ça brûle ici, il fallait que ça bouge ici. Et très concrètement, c'est la même chose qu'il faut décliner concernant l'écart contre le racisme, les racismes d'État, c'est le premier mot d'ordre. Et la bonne nouvelle, c'est que ça part des familles des victimes des violences policières, c'est-à-dire ça part des premiers et des premières concernés par les violences en tant que telles, qui sont à l'initiative de cet appel du 19 mars. Il y a évidemment d'autres mots d'ordre. Les autres mots d'ordre, c'est la question des réfugiés. On ne peut pas vivre aujourd'hui dans un pays qui condamne non seulement, évidemment, ceux qui se solidarisent des réfugiés, on l'a vu dans la vallée de la Roya et ailleurs, mais très honnêtement, qui font la chasse actuellement aux réfugiés, mais où, malgré les promesses qui ont été faites par ce gouvernement, des réfugiés qui se retrouvent renvoyés dans le pays par lequel ils sont passés avant d'arriver en France. Le troisième axe, il est fondamental évidemment, c'est celui des libertés démocratiques, c'est celui contre l'état d'urgence, c'est-à-dire en réalité contre un état liberticide qui empêche tout mouvement de contestation à l'échelle de ce pays-là. Et enfin, la question sociale nous est chère dans cette affaire-là, et très concrètement, on ne peut pas avoir d'égalité de démocratie s'il n'y a pas d'égalité sociale par ailleurs. C'est vrai dans les quartiers populaires, c'est vrai aussi dans la ruralité. Et c'est au détour de tous ces mots d'ordre. Je le dis parce que tout le monde depuis des mois a aux tripes la nécessité de faire de la convergence. On est tous à souffrir individuellement, voire collectivement, mais l'idée fondamentalement c'est de pouvoir politiser cette souffrance. Et politiser cette souffrance, c'est de faire converger nos souffrances, converger nos orientations politiques. Eh bien, ça aussi c'est malgré tout, à mon sens, une bonne nouvelle, c'est que ça vient à l'initiative des familles victimes des violences policières qui appellent à la convergence des luttes sans pour autant noyer les agendas les uns dans les autres. C'est-à-dire concrètement, il faut le dire très nettement, que la question des quartiers populaires est pour nommer les choses comme elles sont. Les Arabes, les Noirs, les Roms, les musulmans, qui sont discriminés pour ce qu'ils sont et pas simplement pour ce qu'ils font, et pour autant ne fera pas de barrière entre un eux et un nous de ce point de vue-là, qui sont discriminés racialement, avec évidemment toute la notion de construction raciale, parce que je sais qu'on n'est pas tous au même fait là-dessus. Personne ne parle de race biologique, surtout pas. Mais l'idée de dire que les flics sont capables de contrôler au faciès plus certaines catégories de la population que d'autres, tu l'appelles comme tu veux, si race ça te fait mal à la tête, eh bien dis noir et arabe si tu veux, il n'y a aucun problème. Mais il y a cette idée de construction sociale qui fait que dans ce pays, il y a des individus qui sont dans un registre de sous-citoyenneté.
Plus de justice et éradiquons les inégalités.
Je suis là pour déclarer mon indépendance par rapport à un État qui laisse faire le racisme et les crimes policiers.
Pour marcher contre la violence policière, contre le racisme, contre la précarisation, l'inégalité et l'exploitation.
Il faut clamer notre dignité. On l'a toujours eue, elle est là et on la clame aujourd'hui. C'est une manifestation faite pour les premiers concernés, par les premiers concernés.
Je dénonçais le racisme d'État et de la société.
Pas de champ de filles voilées,
pas de justice,
pas de paix,
pas de
brutalité.
On ne peut pas se glorifier historiquement de la commune comme un héritage du mouvement ouvrier. On ne peut pas se glorifier historiquement de mai 1968 comme un héritage du mouvement ouvrier avec ses barricades et ses flammes. Si on ne se réfère pas, si on n'intègre pas dans son logiciel de référence politique les mouvements de protestation et de révolte dans les quartiers populaires, parce qu'on n'accepte pas la hurra, on n'accepte pas qu'on nous la fasse à l'envers, l'humiliation, évidemment l'humiliation qui continue, y compris en Aulnay-sous-Bois, il suffit d'écouter les jeunes et les moins jeunes où les flics passent actuellement après ce qui s'est passé pour Théodore et disent aux jeunes « Est-ce que tu veux que je t'encule avec ma baïonnette ?» Compte jusqu'à 10 avant que je te mette une claque. Et quand le mot m'a compté jusqu'à 10, compte jusqu'à 15 avant que je t'éclate la tête contre le mur. Et donc fondamentalement, on a une police qui est dans une dynamique évidemment de racisme. Il n'y a aucun problème là-dessus. Alors je ne veux pas faire le débat ici. Est-ce qu'on a affaire à des pratiques racistes d'une police ou est-ce qu'on a affaire à des pratiques d'une police raciste? Chacun repartira avec ce qu'il voudra. On n'est pas tous d'accord sur le 19 entre un État raciste et les pratiques racistes d'un État. Mais fondamentalement, ce que l'on doit comprendre ici, c'est qu'il ne s'agit pas pour nous, contrairement à d'autres groupes, notamment la déclinaison socialiste de cette mairie ici à Lyon et ailleurs. Je ne veux pas être ami et aimé de la police et des policiers. Ce n'est pas un objectif dans la vie. Alhamdoulilah, je suis bien équilibré émotionnellement. J'ai mon père et ma mère qui m'aiment, et beaucoup plus que ça, une fratrie, t'as pas idée. Il ne s'agit pas de jouer au foot demain avec les policiers. Ce n'est pas ça le but. Le problème, il n'est pas de l'ordre de la relation sociale ou des relations sociales, il est de l'ordre du rapport social, du rapport de domination, du rapport d'exploitation, du rapport de violence, du rapport entre ceux qui sont au-dessus et ceux et celles que l'on a décrétés étant en dessous. Et quand je dis en dessous, ça veut dire beaucoup de choses quand on vit dans les quartiers populaires. Le troisième point, quand je dis se solidariser avec les quartiers populaires qui bougent, et y compris quand il y a des flammes, y compris quand il y a des abris de bus pétés, y compris quand il y a des bus calcinés, et y compris tu peux t'émouvoir demain s'il y a une bibliothèque qui brûle, d'accord, mais après ton émotion, comprendre qu'il y a un système scolaire qui met 150 000 jeunes à la rue régulièrement dans ce pays-là où les inégalités scolaires sont les plus criantes partout dans les pays de l'OCDE, et très concrètement l'école n'est pas ce qu'elle aurait pu être et ce qu'elle aurait dû être fondamentalement. Donc cette amertume, ce dégoût, ça se traduit par cette colère. Et fondamentalement, cette colère, C'est une forme de mobilisation politique, il faut l'entendre, pas sous forme de tract, sous forme d'affiche, mais c'est une forme de visibilité. Et cette histoire de visibilité, elle est fondamentale, parce que le reste de l'année, tous les politiques, y compris les médias, cherchent dans leur globalité à invisibiliser celles et ceux qui sont tout en bas de l'échelle sociale, raciale, ethnique, tu prends les termes que tu veux, mais t'as très bien compris ce que ça peut signifier.
Ça fait 30 ans, j'étais déjà à la première marche. J'avais dit que je marcherais plus, mais il faut le refaire. J'avais 20 ans, aujourd'hui je suis grand-mère et je remets ça. Et j'avais dit que je ne marcherais plus. Pas de justice, pas de paix. Tant qu'on est dans la lutte, c'est qu'on y croit encore. Il reste l'espoir. Malheureusement, il y a 30 ans, c'était que l'immigration maghrébine. Aujourd'hui, regardez autour de vous.
Il y a tout le monde.
Voilà.
Moi, en fait, je suis la petite sœur d'un jeune homme qui a été tué en 1981. Il s'appelle Zahir Boudjelal. Et après 30 ans, on se retrouve encore à marcher. À l'époque, j'avais 6 ans. Aujourd'hui, j'en ai 41.
Un signe éloquent, c'est que la dernière loi votée par ce gouvernement, parce que maintenant, c'est fini, la session parlementaire est terminée. Ça a été comme l'a dit Ramata, d'aligner les flics alors qu'ils avaient déjà le permis de tuer, sans se gêner évidemment, mais d'aligner le permis de tuer des flics sur celui des gendarmes. Je rappelle que les gendarmes, c'est l'armée. Ça veut dire qu'il y a une partie de la population qui, sans aucun doute, relève de l'ennemi intérieur. C'est ça qu'il faut intégrer dans cette affaire-là. Et qu'on n'en a pas fini avec ces grilles de lecture qui permettent de valider les guerres à l'extérieur pour mener aussi dans le même temps, avec le même registre, le même vocabulaire, les grilles à l'intérieur en direction d'une partie de la population. Et enfin, le dernier point, et je terminerai là-dessus. Les médias mettent en avant certains morts, certaines victimes plus que d'autres. Notre stratégie à nous, c'est de dire oui, ils font partie de notre combat. Adama Traoré, il est des nôtres, comme dit Assa Traoré, c'est notre frère à tous. Lamine Diagne, c'est notre frère à tous. Kali Ziri, c'est ton père ou ton grand-père. Et fondamentalement, la famille s'est agrandie, cette famille de solidarité. Mais nous dirons dans le même temps que Adama Traoré, c'est le 8e mort de l'année 2016. Je le dis parce que ça se sait pas. Ça veut dire qu'il y en a eu 7 précédents, qu'il y en a eu d'autres derrière, notamment, y compris des victimes qui ont été fauchées à Calais et ailleurs. Alors ça nous oblige à quelque chose dans cette affaire-là. Pas simplement à suivre l'agenda médiatique. Pas simplement à nous faire croire que l'affaire Théon, c'est dégueulasse parce que c'était un mec qui était blanc malgré sa négritude. C'est-à-dire un mec qui n'avait pas de casier judiciaire, sauf jusqu'à quelques jours où ils ont réussi quand même à sortir quelques dossiers. Eh bien, nous, on dit très clairement, et c'est vrai pour l'ensemble de celles et ceux qu'on défend, quelle que soit la situation, y compris le parcours de délinquant, parce qu'évidemment, il faut du système D quand on vit dans les quartiers populaires, quand on est exclu de cette société-là, ça nous oblige à la solidarité pleine et entière à l'égard de toutes les victimes et des familles des violences policières, aussi bien dans la métropole que dans les colonies, parce que nous, ce qu'on dit, c'est que les dom-toms, comme ils disent, ces fameux métrages de littoral qui soi-disant seraient une chance pour la France, ce sont rien d'autre qu'un servage colonial, qu'un ordonnement colonial qui est fait dans ces zones-là, et il faut nous solidariser de tout cela. Et enfin, je le dis, ça me semble extrêmement important dans cette affaire-là, c'est que le 19 mars, il y aura une marche, mais après la marche, il faut qu'il y ait un après. Ça veut dire qu'il faut qu'ici, il puisse y avoir, y compris, des cadres collectifs unitaires qui puissent converger sur un ensemble de luttes. L'idée, c'est de se donner rendez-vous. Cette convergence qui rentre par là où on ne l'attendait pas, la question des violences policières et des quartiers populaires, ça nous oblige à nous solidariser aussi de Bagui, par exemple, qui est en prison, qui n'a rien à y faire. À nous solidariser aussi, bien sûr, de l'affaire de Théodore, comme je disais il y a un instant, alors que les quatre flics en question sont toujours en train de se balader. À nous solidariser des jeunes et des moins jeunes qui actuellement croupissent en prison, compris du 6 mois ferme, parce qu'ils ont soi-disant fait le délit d'attendre les flics à un endroit. Alors que fondamentalement, la répression, elle est d'une extrême violence dans les quartiers populaires et d'un laxisme sans nom. Parce que c'est justice et police qu'il faut dénoncer dans cette affaire-là, lorsqu'on est noir, arabe, rome et musulman. Voilà pourquoi je finirai là-dessus. Le rendez-vous ultime, c'est celui du 19 mars, 14h Nation.
Et ben bonjour. Quand on évoque le traitement médiatique des violences policières...
Julien Salingue, co-animateur de l'association Acrimed, Action Critique Média.
Passé récemment, autour de l'affaire Dolnay, autour de l'affaire Adama, mais aussi autour du mouvement social du printemps et de la répression policière et de la façon dont tout ça a été traité. Nous, ce qu'on essaye de faire, les gens qui travaillent là-dessus, on est nombreux, hein, mais c'est d'avoir une approche qui n'est pas une approche qui consisterait juste à, disons, avoir le petit bout de la lorgnette et juste de se dire, bon, c'est de la merde, quoi. Mais essayer, y compris, de comprendre, pourquoi on a un traitement de ces violences qui est ce qu'il est, et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça change. C'est-à-dire de ne pas être là non plus impuissant à gueuler devant sa télé, à dire « Ouais, BFM, c'est des flics ». C'est toujours un peu plus compliqué que ça, même si BFM, quand même, c'est compliqué aussi, quoi. Mais aussi de se dire que c'est possible que ça se passe autrement, et qu'il y a des éléments positifs qui nous montrent que, non, on n'est pas perdant. On ne part pas perdant, même si, bien évidemment, la situation actuelle est en notre défaveur. Le traitement médiatique des violences policières, comment il se caractérise? Si on veut parler des violences qui ont lieu dans les quartiers populaires, la première chose, c'est qu'on peut parler d'un sous-traitement. Il y a un sous-traitement, c'est-à-dire qu'on en parle peu, on en parle rarement, on en parle uniquement, mais pas toujours, j'y reviendrai, quand il se passe des choses particulièrement graves, c'est-à-dire globalement quand il y a des morts, ou là, un viol. C'est dans ces moments-là qu'on en parle. Par contre, la violence quotidienne, les violences policières quotidiennes, on n'en parle jamais. Donc il y a un sous-traitement, et même quand on a des violences policières particulièrement graves et qu'elles commencent, entre guillemets, à se savoir, on regarde, ça occupe très peu de temps. Voilà. Il peut y avoir des petits pics pendant 24 heures, 48 heures éventuellement, et même dans ces moments-là, ça reste très court et marginal, intégré entre deux sujets de JT sur les retraités qui finissent leur vie en Californie et les huîtres de l'huile d'Oléron, quoi. Et entre deux, vous avez un en bref, Adama Traoré est mort. Et là, je parle de quelque chose qui s'est réellement passé aux 20h de France 2, le 30 juillet 2016, où le sujet était effectivement intercalé entre les deux que je viens de vous dire, et il avait duré 27 secondes contre 5 minutes pour les huîtres.
En bref, une image du rassemblement de soutien à la famille d'Adama Traoré, ce jeune homme mort il y a quelques jours lors de son interpellation par la police. Un rassemblement s'est tenu devant la gare du Nord à Paris. Un peu plus de 600 personnes étaient présentes. Ses proches réclament la vérité sur les circonstances du décès. La justice, elle, a conclu que le jeune homme n'avait subi aucune violence. La suite de la grève à Air France, quatrième jour du mouvement social donc, des hôtesses et stewards, avec encore
et puis
des
quand ça commence à être un peu traité, mal traité, très mal traité. Et c'est quoi la principale tare? Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est qu'en général, dans à peu près la quasi-totalité des cas, on a un journalisme que moi j'aime bien appeler un journalisme de préfecture. C'est-à-dire que la source principale, voire unique, est la communication de la préfecture de police elle-même. Et toute autre source ou toute autre version est sujette à caution quand elle est relayée. Elle est rarement relayée, mais elle est sujette à caution. C'est François Ruffin, qui a des qualités et des défauts aussi, qui disait à propos de son film, souvent à propos de son film Merci Patron, dans sa tournée, là, il disait « Quand il y a un patron qui parle d'économie, c'est de l'économie. Par contre, quand il y a un syndicaliste qui parle d'économie, c'est du militantisme. » sur les violences policières, c'est pareil. Quand il y a un flic qui parle de violences policières, c'est la version neutre, institutionnelle. Quand il y a des victimes de violences policières qui en parlent, c'est des militants. Donc quelque part, ils doivent être dans l'idéologie. Et malheureusement, c'est ça qui domine. On a un traitement préfectoral. On reprend tel quel, je dis « on », c'est pas nous, « on » dans les grands médias, on reprend la version officielle, donc la version institutionnelle, qui va être la première, la principale, et qui va être ensuite, quand bien même elle serait démentie, ces démentis seront toujours présentés comme étant, on peut en douter.
Bonsoir à tous, à la une de l'actualité ce soir, le rapport de l'IGPN qui contredit la version de Théo. La police des polices parle d'un geste accidentel, c'est très grave, mais ce n'est pas un viol, disent les enquêteurs. Quelle réaction à Aulnay-sous-Bois? Anne-Charlotte Inès sera en direct. La contre-attaque du clan Fillon, ses avocats...
Là, très récemment, on a eu un exemple exemplaire de ça lors de la manifestation de Bobigny. Vous savez, c'est CRS qui avait sauvé une fillette d'une voiture en flammes. L'info a tourné pendant plusieurs heures le soir de la manifestation à Bobigny, parce que c'était le communiqué de la préfecture, qui a été repris sans vérification par la plupart des grands médias. Ils l'ont repris, c'est la préfecture, c'est l'institution, donc elle dit vrai. Sauf qu'il s'est avéré petit à petit que les choses étaient beaucoup plus compliquées que ça. Qu'en fait, un, c'était pas les CRS, deux, la voiture était pas en feu, trois, il avait témoigné, le gars qui était intervenu, et donc petit à petit, il a fallu reculer On a eu un cas typique de ce journalisme de préfecture où on reprend sans vérifier. Alors que vous imaginez bien que si l'info vient d'abord d'un collectif de quartier, on va prendre le temps de la vérifier. On va la vérifier 15 fois, et on va la vérifier comment ? D'abord en appelant les flics, qui sont, comme chacun le sait, une source neutre. Donc ce maltraitement, il est celui-ci, et puis il est une deuxième chose, et je vais finir avec ça, sur un peu ce qu'on voit, ce qu'on lit, c'est qu'on traite les violences policières comme un fait divers. Voilà, c'est un fait divers. Voilà, il s'est passé ça. Ça peut être très tragique, comme tous les faits divers. Mais voilà, c'est toujours des actes qui sont considérés séparément les uns des autres. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose de structurel, c'est pas quelque chose d'institutionnel, c'est pas quelque chose de systématique. C'est l'affaire Intel, l'affaire machin, l'affaire de telle ville, l'affaire de tel quartier. Mais jamais on les met en relation les uns avec les autres. Je dis jamais, vous avez compris, hein. Vous avez notamment dans la presse écrite et parfois en radio des gens qui essaient de faire un peu mieux leur boulot que ça. Mais disons que le bruit médiatique dominant, les titres, les JT, les chaînes d'infos, les manchettes de journaux, etc., c'est à chaque fois le fait divers. Il s'est passé ça, il s'est passé ceci. Mais on ne discute pas de finalement, est-ce qu'il n'y a pas un système derrière ? Est-ce qu'il n'y a pas un système d'oppression qui génère ça ? Et ce traitement en forme de fait divers, et ça fera la transition sur la deuxième partie de ce que je voulais dire, ce traitement en forme de fait divers, finalement, il est lié à une façon plus générale de traiter les quartiers populaires dans les médias. C'est-à-dire, on veut un traitement fait diversier, un traitement spectaculaire. C'est-à-dire que, alors là, quand il y a des voitures qui brûlent, alors là, il y a du monde. Ça, là, il y a du monde. Il n'y a pas de problème. Quand il y a des poubelles qui brûlent, là, il y a du monde. Quand il y a du matériel urbain qui est cassé, là, il y a du monde. Ça fait des belles images, ça fait des titres chocs, ça fait etc. Par contre, la vie quotidienne des habitants des quartiers populaires, c'est pas très spectaculaire, quoi. Hein, c'est pas très fait divers. Donc finalement, le seul moment où on s'y intéresse, c'est quand on va avoir cette possibilité de finalement transformer quelque chose qui est profondément politique en quelque chose qui ne l'est pas, c'est-à-dire un fait divers, parce que ce qui fait l'essence même du fait divers, c'est que c'est l'expression d'une tendance à dépolitiser en les individualisant des situations qui sont en général des situations collectives. Et donc deuxième point, et j'irai plus vite, c'est finalement pourquoi il y a ça et comment ça pourrait changer. Pourquoi il y a ça ? Alors c'est pas par ordre de préférence, mais il faut se dire qu'il y a une question qui est d'abord de sociologie des journalistes. C'est-à-dire les journalistes qui travaillent dans ces grands médias, je parlerai de leurs conditions de travail après, qui sont aussi un facteur d'explication, mais c'est que tout simplement, la plupart des journalistes, et notamment de ceux qui sont placés dans les hiérarchies, qui bossent dans ces grands médias, ne savent pas ce que c'est la vie dans les quartiers populaires, parce qu'ils n'en viennent pas. Voilà, ils ne connaissent pas, ils n'ont pas grandi là, ils n'ont pas été à l'école là, ils n'ont pas d'amis avec qui ils ont grandi là. C'est des gens qui, pour la plupart d'entre eux, alors c'est pas la grande bourgeoisie ou l'aristocratie, mais qui sont plutôt des gens qui ont vécu dans les centres-villes, des gens qui ont vécu dans des quartiers, mais entre guillemets mixtes, mais les banlieues, les vrais quartiers, difficiles, comme ils disent, difficiles pour qui ? Difficiles pour eux, difficiles à comprendre. C'est pour ça qu'ils disent c'est les quartiers difficiles, parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre ce qui s'y passe. Donc il ne faut pas s'étonner qu'ils soient incapables, lorsqu'il s'agit d'en parler, de raconter autre chose que les banalités, les poncifs, les préjugés et tous les éléments dominants qu'on entend partout. Ils ne connaissent pas. Moi, je travaille beaucoup sur l'information internationale, et notamment l'information sur la région Moyen-Orient, on va dire. On retrouve le même type de mécanisme. On a l'impression qu'il y a certains grands médias et grands journalistes, quand ils parlent des banlieues, c'est comme quand ils parlent de l'Afghanistan. C'est un truc, ils n'ont jamais été, ils ne savent pas trop comment ça se passe. Voilà, donc ils ont quelques trucs en tête, ils se disent, bon, Afghanistan, ça veut dire des barbus, les talibans, l'islam intégriste, etc., des attentats. Et ben, quartier populaire, ça veut dire des délinquants, des trafics de drogue, où ils sont éventuellement informés en regardant les émissions de Bernard de la Villardière, donc ça les a pas forcément aidés. Et donc voilà, on s'entretient dans une série de clichés, tout simplement parce qu'on ne sait pas de quoi on parle. Et j'insiste là-dessus parce que, c'est pas ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas nécessairement intentionnel de la part de tous les journalistes de dire des conneries. C'est aussi qu'ils partent d'un niveau qui est à peu près proche de zéro et que les médias ne sont pas coupés du reste des sphères de la société et que quand on évolue dans une société comme la nôtre aujourd'hui, avec les processus de stigmatisation, avec les processus d'oppression, avec un FN à 30%, avec des villes où on peut plus faire des réunions parce qu'il y a les FAF qui viennent casser les vitrines, avec tout ça, bah faut pas s'étonner que les clichés, les préjugés, on les retrouve aussi dans un milieu qui ne connaît pas ces endroits-là. La deuxième chose, c'est les conditions de travail et les exigences, finalement, qui sont inhérentes à ce type de grands médias. C'est, il faut faire de l'audimat, il faut faire du buzz, il faut faire du scoop, il faut faire de l'audience, donc il faut travailler vite. Et quand on travaille vite, on travaille mal. Et donc, on reprend bêtement des infos sans les vérifier, parce qu'il faut sortir un truc rapidement. Et donc, ça double, entre guillemets, la méconnaissance, c'est qu'on connaît mal, et comme en plus il faut faire vite, ben on répète les mêmes conneries que les confrères, et on préfère avoir des sources, entre guillemets, fiables ou stables, que sont les keufs. Parce que comme on ne connaît pas ces quartiers-là, on a très peu de contacts avec les associations, on a très peu de contacts avec les gens qui y vivent, et donc quand il faut bricoler un article très vite, eh ben on va voir ce que les collègues ont dit, et puis on va appeler la préfecture, et puis avec ça, on va vous fabriquer un article ou un reportage. Et troisième et dernier point, et je m'arrêterai là, ce traitement fait diversier et ce traitement, on va dire, de gens qui sont extérieurs à ces quartiers, ça pose deux questions politiques que Omar a en partie posées, tout en disant qu'il voulait pas s'insérer dedans. Mais c'est un, le traitement fait diversier, ça revient à invisibiliser et nier le fait qu'il y a un problème avec l'institution policière. Pas juste avec quelques individus un peu fous, un peu méchants, un peu racistes, qui saliraient l'honneur de la police nationale républicaine. Non, il y a un problème avec l'institution. Sauf que quand tu poses le problème de l'institution, t'es plus dans le fait divers. Et donc quand tu poses le problème du fait divers, de manière faite diversière, tu invisibilises le problème de l'institution. Et la deuxième chose sur la méconnaissance et sur finalement de se raccrocher à des poncifs et des clichés, c'est que tout simplement, on ne donne pas la parole à ceux qui vivent dans les quartiers. Voilà, on ne leur donne pas la parole. Et c'est d'autant plus important qu'ils l'apprennent. C'est d'autant plus important que les populations qui sont les premières victimes de tout ça prennent la parole, le disent, c'est le sens de la marche, c'est le sens de ce que disait Omar tout à l'heure, mais c'est le sens aussi, et je vais finir avec ça parce qu'on parlait médias, c'est le sens aussi d'un certain nombre de tentatives de construction de médias des quartiers, de médias contre les violences policières, de médias qui informent, qui essayent en tout cas de donner une autre version des faits. Et il ne faut pas sous-estimer le poids que ça peut avoir. Les réseaux sociaux, oui, les vidéos. Pourquoi l'affaire Théo, elle a pris un cours que n'avait peut-être pas pris l'affaire Adama Traoré? Parce que ça a été filmé, parce que ça a été diffusé, parce que la vidéo, au bout d'un moment, elle tournait tellement que les grands médias étaient obligés de la diffuser eux aussi. Donc il ne faut pas sous-estimer ça, et ne pas sous-estimer non plus le fait qu'il ne faut pas laisser les grands médias, entre guillemets, aux mains de gens qui n'y connaissent rien. Et il y a un certain nombre d'expériences qui sont faites pour essayer de transformer un peu les rédactions de l'intérieur, qu'il faut regarder de près aussi. Je pense par exemple à un média comme le Bondy Blog, qui a énormément de défauts, mais qui est un média qui est en grande partie dirigé par des gens qui savent de quoi ils parlent. On n'est pas forcément d'accord avec tout ce qu'ils disent, moi voilà, je peux m'engueuler avec eux, mais au moins, la source, les sources, ils la connaissent, ils connaissent des gens là-bas, c'est normal, ils y ont grandi, donc ils peuvent donner une autre version de l'histoire, et il ne faut pas sous-estimer le fait que, et on le sait tous, qu'il y a les médias alternatifs qui essayent de dire autre chose, mais on sait aussi que quand on arrive à faire passer, entre guillemets, des informations dans ce qu'on appelle un grand média, ça a un poids très fort aussi. Et donc il faut tenir les deux bouts, pas laisser tomber l'un pour l'autre ou abandonner l'autre pour l'un, mais se dire que c'est possible. Je pense que ce qui est en train de se passer autour de cette mobilisation, autour des dernières mobilisations et autour du 19 mars, peut être un moment où on peut franchir un cap sur la question de la médiatisation de ces questions. Et il y a un vrai enjeu à la réussite de cette journée aussi pour cette raison-là. Voilà.
Merci à vous d'être venus, d'avoir traversé Lyon, puisque tout a été entrepris.
Nassira Guenif-Souilamas, sociologue.
Et je pense qu'il faut se féliciter du fait qu'elle ne s'est pas tenue dans l'indifférence. Le fait qu'il ait, une certaine extrême droite lyonnaise ait cherché à empêcher cette rencontre d'avoir lieu, le fait que la police ait dû se mobiliser et qu'elle soit encore peut-être au bout de la rue pendant que l'on parle, tout cela montre à quel point est-ce que cette mobilisation, son objectif premier qui est donc la marche pour la justice et la dignité du 19 mars 2017 et au-delà son objectif ultime qui est celui d'une convergence massive et nationale et même au-delà pour enfin faire entendre la voix des premiers concernés contre les violences policières, contre toutes les formes de répression et d'injustice, eh bien cette démarche, visiblement, a suscité des résistances, des rejets, des refus, l'expression d'une haine et de formes d'intimidation qui font la démonstration que l'ensemble de ce qui est en train de se jouer à partir d'aujourd'hui et depuis déjà des mois est parfaitement justifié et politiquement légitime. Pour maintenir cette forme de légitimité et pour la conduire à son terme, je vais essayer d'apporter quelques éléments complémentaires à tout ce qui a déjà été dit de façon extrêmement forte et pertinente et importante, en insistant sur deux points qui peut-être n'ont pas été complètement épuisés. Le premier, c'est le point de la réalité coloniale qui aujourd'hui est une réalité qui constitue la forme de gouvernement des populations, et notamment des populations populaires, des populations minoritaires, et des populations qui sont considérées comme illégitimes et indésirables. Cette réalité coloniale, ça n'est pas simplement un héritage du passé, on l'a vu hein, à travers les pratiques de militarisation, les pratiques de répression, c'est aussi l'ordinaire de la vie dans les quartiers. Et c'est là, je pense, qu'il faut accroître notre niveau de vigilance et d'acuité, hein, de discernement. La réalité coloniale, ça n'est pas simplement dans les phases les plus spectaculaires qu'elle se donne à voir, avec son visage le plus hideux. Elle est aussi inscrite dans l'ensemble des routines qui aujourd'hui sont observables dans la vie des quartiers populaires, mais aussi dans la réalité des centres-villes ségrégés, hein, de l'auto-ségrégation des milieux les plus privilégiés qui souhaitent rester entre eux. Cette réalité, elle est coloniale, d'abord parce qu'elle reproduit les formes de démarcation et de séparatisme qui ont valu dans les espaces coloniaux. Hein, il s'agissait toujours effectivement de diviser les populations, de les séparer, de les hiérarchiser et de le faire sur une base raciale, c'est-à-dire en activant un système race. Et c'était très exactement ce qui a fonctionné dans l'Empire colonial, notamment français, mais pas seulement, et qui a été en quelque sorte rapatrié au terme, et une fois l'Empire colonial liquidé, c'est ce qui a été rapatrié dans l'espace hexagonal et dans cette nouvelle configuration avec les dénommés territoires et d'outre-mer. Donc cette logique du rapatriement, on peut la retrouver dans l'ensemble des activités ordinaires de nos quartiers et les habitants la vivent parfois sans en avoir complètement conscience. Et je pense que c'est cette forme de prise de conscience qu'il faut parvenir aujourd'hui à activer et à stimuler avec le développement d'une conscience décoloniale qui permettrait de comprendre en quoi est-ce que ça n'est pas seulement lorsque la police contrôle, lorsque la police humilie, lorsque la police viole, lorsqu'elle tue, que l'ordre colonial se manifeste dans ses aspects les plus violents et les plus implacables. C'est aussi dans le fonctionnement institutionnel qui aujourd'hui est celui de l'école, du système de santé, des attributions de logement, de l'accès à l'emploi, ou plutôt de sa disparition progressive, du fait que le travail est en train de devenir un privilège, qui est réservé à certains et qui est définitivement ôté à d'autres, et le fait que l'ensemble des droits qui sont fondamentalement attachés aux personnes, ce sont des droits qui sont systématiquement soumis à conditions. Il y a un régime de conditionnalité aujourd'hui qui fait que les habitants, notamment qui sont les plus dominés et les plus opprimés, ne peuvent pas prétendre à certains droits, comme le droit d'expression, comme le droit de circulation, le droit à la mobilité, le droit à la formation, etc. Donc l'ensemble des domaines de l'existence les plus ordinaires sont aujourd'hui complètement soumis à cette logique d'un gouvernement de la population sous une forme coloniale. Donc c'est aussi ça qui, à un moment donné, autorise le passage à l'acte et l'impunité. C'est parce que les populations en question ne sont pas égales, parce qu'elles n'ont pas, au fond, leur valeur n'est pas équivalente à celle des autres, ou alors leur vie est dévalorisée, elle est démonétisée. Ce sont des populations qui n'ont plus de valeur et qui donc peuvent être livrées à toute une série d'atteintes dans les droits fondamentaux, dans l'ordinaire de l'existence et ultimement à travers ce que nous observons maintenant depuis presque un demi-siècle dans le comportement de la police à l'égard des Français qui n'ont pas l'air d'être Français ou des immigrés qui ont trop l'air d'être immigrés. Donc cette logique de avoir la tête de l'emploi, effectivement, ça va conduire certains segments de la population à subir des formes de répression. Ça peut se traduire par des formes de discrimination, dans l'accès au logement, à la santé, à l'orientation scolaire, les carrières scolaires qui finissent par produire des générations entières de gueules cassées du système scolaire. C'est aussi une manière de gérer les populations sur un mode colonial et sur un mode de la conditionnalité. Donc pour pouvoir accéder à certains droits, il va falloir montrer patte blanche, il va falloir faire la démonstration que l'on est le bon élève et que l'on se désolidarise du groupe auquel on appartient. C'est exactement ce qui s'est joué pendant des décennies, nous en sommes à la 4e ou la 5e génération aujourd'hui, de populations auxquelles on a demandé de faire preuve de loyauté, et cette loyauté ne pouvait s'exercer et se prouver que, d'une certaine manière, en dénonçant les siens. Et en considérant que la seule façon de s'en sortir, c'était de s'en sortir seul. Donc cette logique-là, aujourd'hui, elle conduit et elle autorise des comportements policiers tels que ceux que nous observons. Et je voudrais insister sur un point qui peut sembler extrêmement déprimant lorsqu'on en prend conscience, mais qui nous permet de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a autant d'agressions de la police, pourquoi est-ce que la police est aussi violente dans l'ordinaire et de façon aussi avec autant d'impunité, c'est que d'une certaine manière, si l'on admet la thèse d'un gouvernement colonial des populations, et notamment des populations qui ont vocation à rester opprimées et dominées, c'est que ces vies-là sont supprimées parce qu'elles expriment la vengeance de l'État à l'égard d'une partie de sa population. C'est une thèse qui a été développée par d'autres. C'est très important, c'est-à-dire que en fait, ces crimes policiers, ces violences policières, c'est une expression du rétablissement de l'honneur d'un État qui se sent avili et sali dans sa dignité. Autrement dit, là, je pense qu'il est important d'avoir en tête que lorsque l'exercice de la violence policière monte à son maximum, c'est qu'en fait, les policiers sont aussi en train de rétablir leur honneur et qu'ils ont le sentiment d'exprimer la plénitude de leur légitimité. Si on admet que c'est bien comme ça que ça peut se passer dans la tête des policiers et de l'institution policière, on peut comprendre pourquoi est-ce que ça n'a pas vocation à cesser. Et que si l'on n'est pas capable, à un moment donné, de dénoncer cette pratique-là comme étant une pratique qui, en fait, est un abus de pouvoir et qu'il n'y a rien à restaurer de la légitimité et de l'honneur de la police, pas même avec des manifestations cagoulées des policiers qui sont des manifestations interdites, ils n'ont pas à rétablir leur honneur. Ils n'ont pas à venger l'État français, ils n'ont pas à rétablir le prestige de la France parce qu'elle aurait été dégradée depuis qu'elle n'est plus un empire colonial. C'est aussi cela qu'il faut parvenir aujourd'hui à dénoncer, c'est-à-dire ces faux-semblants qui ne sont pas que le langage de l'extrême droite. Ne nous leurrons pas, c'est un langage qui a aujourd'hui diffusé dans l'ensemble de la société. C'est un langage qui est aussi présent et ô combien à gauche. C'est un langage qui a complètement miné l'ensemble des mobilisations pour, justement, l'accès au droit, pour l'accès à la justice. Si depuis 10 ans, nous observons un champ de ruines, c'est parce que ce langage-là, ce langage du rétablissement du prestige et de la sauvegarde d'un certain honneur, c'est un langage qui a complètement diffusé et infusé dans l'ensemble de la société. Donc aujourd'hui, c'est aussi contre cela qu'il faut parvenir à lutter, en mettant en évidence cette espèce de paysage qui semble être complètement diffus et lointain, qui est le paysage, en fait, d'une sorte de fierté coloniale, de fierté de la domination, du rétablissement du droit à dominer, y compris, d'ailleurs, en humiliant et en allant à l'encontre de l'intégrité des corps des personnes. C'est toujours les corps qui sont les premiers exposés à ça. Donc cet aspect-là, il me semble d'autant plus central qu'il sera enfin possible de dire que, alors qu'on est tout le temps en train de nous expliquer que les jeunes des quartiers ont un honneur exacerbé, en fait, un crime d'honneur peut en cacher un autre. Et celui qui aujourd'hui est en train de se perpétuer dans la plus grande impunité, c'est le crime d'une institution policière qui considère qu'en fait, elle est là pour venger l'État qu'elle prétend servir.
Ok. Apparemment, on t'a rendu ce contrat de vendu où était stipulé que tu donnais ton cul. Abandonner ton camp, et pourtant, c'était du tout cuit selon ton plan. Les colons ne t'aiment plus, Et maintenant tu te plains d'avoir fait le tapin à temps plein, mais rien n'est perdu. On a du taf pour toi.
Et les violences policières sont des violences sexuelles. Ça semble être une découverte, alors que nous savons très bien, et lorsque l'on parle avec des jeunes gens qui habitent dans les quartiers, la violence sexuelle, c'est la première forme des violences qui s'exerce à l'encontre des jeunes hommes, et notamment pour, d'une certaine manière, les renvoyer à leur nature. C'est-à-dire leur rappeler que ce sont eux les machistes, ce sont eux qui sont violents avec leurs femmes, et que, d'une certaine manière, cette façon de les avilir dans leur sexualité et dans leur personne, c'est un rappel à l'ordre. C'est une façon de rétablir aussi, c'est du moins ce qu'on veut nous faire croire, l'honneur des femmes qui auraient été bafouées par eux. La police pourrait finir par faire croire qu'en fait, elle est l'intermédiaire qui pourrait sauver les femmes contre leurs hommes. Et cette façon d'humilier à travers des connotations sexuelles, cette façon de littéralement faire effraction dans le corps et dans l'intégrité corporelle de ces jeunes hommes, c'est une façon que les policiers ont non seulement d'exercer leur domination, à travers, d'ailleurs souvent en étant eux-mêmes subalternes dans leur hiérarchie et dans leur institution, mais c'est une façon qu'ils ont de se trouver de bonnes raisons d'exercer cette violence et de la perpétuer. Il n'y a pas de caractère de nouveauté là-dedans. Hein. Tout le monde parle de Théo comme étant la victime emblématique d'une agression sexuelle et d'une violence sexuelle qui est une violence policière, sauf qu'en fait, ce qu'il met en évidence, c'est le caractère désespérément routinier de cette façon de procéder. Donc cette question-là, aujourd'hui, il faut parvenir à la faire entendre comme étant aussi une expression de la domination coloniale. C'est-à-dire le fait de s'approprier les corps, de leur ôter toute dignité et toute souveraineté, ça fait partie des pratiques coloniales dont on sait qu'elles s'expriment aussi bien dans l'ordinaire de la colonie que dans les moments de conflit et de guerre. Ce sont exactement les mêmes pratiques qui aujourd'hui s'observent à travers l'histoire des populations des quartiers.
Les bleus marines haïssent la largeur de mes narines, ma mélanine, la blancheur de mes canines. Pourchassent ma race à la racine, contrôle palpe et insulte et souvent assassine. Est-ce ma tignasse noire ou ma bouche épaisse qui m'empêche d'appartenir à l'humaine espèce? Et j'ai ce faciès qui a tare et déficience, tant de fois considéré comme bâtard par la science. Exposé dans les eaux et lynché par les masses, vendu au plus offrant sur les marchés et les places. Les racistes accomplissent et la loi est complice, les pires tortures, saloperies et puis supplices. Et ma face sans la pisse, la bouffe et la chiasse. Vie dans le gouffre, les vices et puis la crasse. Glisse entre les clichés ininterrompus qui disent qu'un crépus, ça pollue et ça pue.
On a peut-être tendance à oublier qu'il va falloir penser aux solutions et aux lieux à partir desquels les solutions se pensent et se vivent. Moi je suis enseignante donc, et j'enseigne à des futurs enseignants. Donc je suis particulièrement préoccupée par ça. L'éducation a été pendant très longtemps, dans les quartiers populaires, curieusement, un des lieux de perpétuation de la mission civilisatrice, qui est un des ressorts puissants de l'ordre colonial. C'est quelque chose que l'on peut observer dans l'ordinaire des pratiques des enseignants, dans l'ordinaire des salles des professeurs, dans l'ordinaire des classes. Cette façon de se convaincre que ces élèves sont complètement inadaptés et n'ont strictement aucune compétence, et que ce sont donc des élèves insignifiants, et qu'il va falloir, d'une certaine manière, les rectifier, les ramener dans le bon chemin de la culture et de la civilisation française. Ce sont des choses que l'on a observées, même si c'est rarement dit dans les termes que je suis en train d'employer. Non seulement ça s'observe dans l'ordinaire de l'éducation nationale, mais ça s'observe aussi dans... on pourrait dire la formation, les formations continues, les décisions qui sont prises au niveau de l'État, à tous les niveaux intermédiaires. Donc c'est aussi là, parmi tant d'autres endroits, qu'il va falloir faire entendre la réalité de cette persistance d'une forme de mépris, d'une dégradation de la dignité des personnes, et notamment des élèves, parce qu'ils n'en sont pas de la bonne origine. C'est quelque chose qui se joue dès à présent, ça fait des décennies. Je rappelle par exemple que récemment, il a été question de supprimer les ZEP au niveau des lycées, hein, qui est une des modalités pour venir à bout, en quelque sorte, de cette façon importante d'enseigner pour des populations qui ont toujours été privées de ce dont elles avaient droit. Et donc je pense que penser les solutions à partir de l'éducation, ce sont des choses qu'il va falloir que nous parvenions à faire. et le faire en même temps que manifester, en même temps que marcher, en même temps que assurer la convergence. Cette convergence, il faut qu'elle se fasse aussi à partir des préoccupations des personnes. C'est parce que nous exerçons et parce que nous sommes dans des milieux professionnels ou que nous voudrions être dans des milieux professionnels pour toutes celles et ceux qui sont au chômage et pour lesquels le travail n'est même plus une perspective. C'est à partir de nos expériences que nous allons pouvoir assumer la convergence. Et donc parvenir à chaque fois à décrypter, à comprendre comment est-ce que cette logique coloniale vient s'instiller dans toutes les expériences et dans toutes les réalités les plus ordinaires, c'est aussi ça qui peut nous convaincre à un moment donné qu'il faut que nous nous mobilisions collectivement. C'est une mobilisation, y compris au-delà des premiers concernés. Et si aujourd'hui, les Blancs, les membres de la société majoritaire, ont décidé de se mobiliser, c'est sans doute parce qu'ils ont compris qu'ils ne peuvent plus avoir un intérêt quelconque à vouloir maintenir des privilèges au prix d'exactions, d'oppression, de destruction de vie telles qu'aujourd'hui nous les observons et face auxquelles nous avons le sentiment trop souvent d'être impuissants. Pour que l'impunité ne puisse pas durer, pour qu'elle ne soit plus pensable, pour qu'elle ne puisse plus se maintenir sans être contestée énergiquement, volontairement et définitivement au sein des mouvements populaires, et ça excède ce qui s'est joué au printemps dernier, il est absolument essentiel aujourd'hui que la lutte pour la justice et la dignité devienne les luttes motrices de toutes les autres luttes et qu'elles soient faites d'abord avec, au bénéfice et derrière les premiers concernés et les premières concernées. Merci.